EMCI TV vous présente Parole de femme, le rendez-vous des femmes avec Annabelle pour vivre sa foi au quotidien.
Bonjour à tous et bienvenue dans Parole de femme. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la gestion financière. 5 conseils pour avoir une bonne gestion financière. Et c'est le moment de pouvoir, comme je l'ai dit hier, de prendre votre papier et votre crayon. On va être avec Aurélie, de bonnes élèves aujourd'hui. T'es prête,
oui.
Aurélie,
oui,
à apprendre avant,
à noter aussi.
Avant qu'on commence l'émission. Aurélie a dit, Pasteur Elège, on vous écoute, hein, parce que parce que nous, on est...
On était éduqués à la dépense.
Donc, Pasteur Elège, merci d'être avec nous toute cette semaine.
Merci
Hier,
de m'avoir.
On a parlé du cœur. Et aujourd'hui, on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus pratique, des conseils pour la gestion financière, parce que, en fait, quelquefois, on n'a jamais été... On entre dans l'âge adulte, puis on doit faire des décisions financières parce qu'on veut s'acheter une voiture... Parce que quelquefois, on veut s'acheter une maison ou un appartement, on se dit que c'est le moment ou est-ce qu'on reste en location. Et puis, on est face à tous ces choix et les enfants, etc. Et personne ne nous a jamais appris, en fait, comment gérer nos finances avec sagesse, mais aussi avec foi, puis avec une mentalité, la mentalité de Dieu et les principes de Dieu. Ce qui fait que vous dites, en plus d'être chrétien, ça rajoute, c'est encore plus compliqué. Non, pas du tout. Au contraire, ça rajoute une plus grande liberté, puis une confiance en Dieu que d'autres ne peuvent pas avoir. Alors, toutes ces choses qu'on n'a pas forcément apprises à l'école, que nos parents ne nous ont pas apprises, aujourd'hui, on peut l'apprendre dans Parole de femme, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Donc, Pasteur Elège, apprenons ensemble.
All right. Bon, le premier point pour conseil pour une gestion financière efficace, l'éducation.
Bon, oui.
De la gestion financière qu'on appellerait l'intelligence financière. Mm-hmm. Tu sais, pour la plupart des gens, c'est normal d'aller à l'école, prendre un curriculum d'infirmier ou d'infirmière, avoir un diplôme et travailler en tant qu'infirmier ou infirmière, ou un avocat, ou un ingénieur. Pour toute matière ou toute fonction ou carrière, il y a un curriculum donné. Et des fois, pour nous, on pense que parce qu'on est chrétien, et parce qu'on est adulte, on doit savoir automatiquement comment gérer nos finances, ce qui n'est pas vrai du tout. Comme la prière, les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. De la même façon aussi, on pourrait dire, apprends-nous à gérer nos finances. L'intelligence financière, c'est la porte d'entrée lorsque tu veux être un bon gérant de ce que Dieu t'a confié. Parce que l'ignorance, c'est le plus grand cancer de l'humanité. On le voit dans Osée, à chapitre 4, il dit, à cause de l'ignorance, mon peuple périt. Et à cause de ça, le verset 6 dit, à cause de ça, même leurs enfants, je les ai abandonnés. Donc, l'ignorance ne nous affecte pas seulement, elle affecte aussi les générations à venir. Et l'ignorance n'est pas un démon. On ne peut pas le chasser. C'est le manque de connaissances. Donc, il y a un corps, un curriculum précis pour comprendre la gestion financière. Donc, ça, c'est le premier point. Il faut s'ouvrir à apprendre.
Apprendre
qu'est-ce que Dieu pense de nos finances dans le contexte biblique. À peut-être lire des livres, à lire des livres des hommes et des femmes qui sont vraiment sages dans la matière des finances, à qui Dieu a donné beaucoup d'intelligence, ou aller à des séminaires, ou côtoyer des personnes qui ont déjà réussi dans le domaine, poser des questions et pouvoir recevoir. Donc ça, c'est le premier point, c'est l'intelligence financière, c'est l'éducation.
Est-ce que vous conseillez, vous recommanderiez de suivre ou d'écouter des podcasts ou toutes sortes de choses, mais séculiers au niveau des finances?
Quand ça arrive aux finances, que ça soit séculier, je le recommanderais. Parce que tout bon don vient de l'Éternel. Il y a la grâce que Dieu a donnée à des individus qui ne connaissent pas Jésus, mais qui commandent dans un domaine donné. Bien sûr, si leur connaissance ou leur sagesse contredit les Écritures, on va laisser faire ce côté-là. Mais de façon générale, si quelqu'un est un commandant dans un domaine donné ou il a des fruits dans un domaine donné, cette intelligence que Dieu l'a donnée, on peut soutirer quelque chose de là. Parce que la sagesse, elle vient de Dieu.
Et vous disiez que c'était la porte d'entrée. Et quelquefois, on peut prier pour avoir plus d'argent, plus de finances. On se dit, ça va être ça, ma solution. Mais en fait, la solution, en tout cas, la première des solutions, ce serait de prier pour avoir une meilleure gestion financière et avoir cette intelligence. Parce
bien
que
sûr.
Plus on en aura, moins, si on ne le gère pas bien, plus on en aura et plus...
On va mal gérer.
C'est ça. Plus on va mal gérer parce qu'on aura, on aura encore plus dans nos mains. Donc, c'est important de pouvoir commencer par là, de pouvoir s'éduquer, de pouvoir se renseigner, s'informer. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Et puis, le fait, quelquefois, comme de se dire, je vais me être éduquée en termes de finances, on a l'impression que ça fait de nous peut-être des gens très trop intéressés par l'argent, ou alors on se dit que c'est réservé que à ceux qui sont dans les affaires, à des millionnaires, à des millionnaires, mais que moi, maman au foyer, etc., c'est peut-être que tu sais, c'est pas mon domaine, faudrait mieux que je me forme sur autre chose, mais en fait, si vous êtes une maman au foyer, vous avez un budget à gérer, et il y a de la nourriture, il y a des vêtements, il y a des sorties, il y a des activités, et puis c'est les mêmes principes en fait fonctionnent. C'est juste des besoins et des sorties différentes, et la personne peut-être qu'elle va parler avec des plus gros montants, mais l'idée va rester la même.
100%.
Je crois.
La Bible dit d'ailleurs, je pense que c'est Luc 6, 11, si tu n'es pas fidèle avec l'argent qui est injuste, qui va te confier les vraies richesses? Donc, à quelque part, il faut qu'on sache qu'on ne peut pas donner une voiture à quelqu'un. Quelqu'un qui peut dire, Seigneur, donne-moi une voiture. Mais tu n'as pas de permis de conduite. C'est un danger public. Alors, c'est la même chose pour les finances. Seigneur, bénis-moi, mais tu ne sais pas comment gérer ce que Dieu va te bénir avec. Donc, c'est vraiment le départ pour c'est la plus grande expression de foi, de savoir que je suis tellement convaincu que Dieu va me bénir, je me prépare en conséquence de pouvoir être un bon gérant avec ce que je vais recevoir par ma prière.
Je me rappelle, quand j'étais jeune convertie, on m'avait justement fait un cours sur les finances. J'ai plusieurs masters en possession, mais je ne savais pas gérer mes finances. Parce que justement, à l'école, on ne va pas forcément t'apprendre à gérer tes finances de façon quotidienne. Et quand j'avais découvert justement... c'était à l'église qu'on m'avait donné le cours en plus. Donc, quand j'avais découvert tout ça, je me disais, waouh, c'est tout ce que je dois faire avec l'argent, mais je ne le connaissais pas. Tu vois, j'aurais pu entrer dans plusieurs endroits et me vanter de mes diplômes, que plusieurs n'ont pas, mais je ne connaissais pas ça. Et dans la société, parfois, on peut penser que c'est basique, que c'est banal, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est tellement important. C'est que même, tu parlais de la mère, par exemple, au foyer, mais même à ses enfants, il va falloir qu'elle enseigne ces principes-là. Mais si on ne commence pas à enseigner les principes, disons, aux enfants à leur bas âge, mais ils vont se retrouver peut-être comme moi, je me suis retrouvée, où, mes parents ont pourvu à tous mes besoins, mais il y a des connaissances que je n'avais pas forcément, ou quand tu rentres dans la vie adulte, mais tu te retrouves bloqué quelque part. Et la société dans laquelle on est fonctionne aussi avec de l'argent. Ça fonctionne sur la base d'un système financier. Donc, pour être aussi des lumières, pour être des personnes qui brillent, on doit pouvoir avoir une certaine éducation qui vient du royaume de Dieu pour justement, entre guillemets, contrecarrer si la force de proposition vient toujours du monde, mais à notre niveau, en tant que chrétien, on ne va pas savoir briller. Donc, c'est important d'avoir cette éducation et de se dire, moi, je veux, dans ce domaine-là aussi, honorer le Seigneur et je veux faire ce que le Seigneur me demande.
Amen. Juste pour dire, dans la même lignée avec Aurélie, c'est qu'on a vu des professeurs de finances qui sont fauchés. Des économistes qui sont fauchés. Parce que dans le système académique formel, on n'enseigne pas sur la gestion des finances. Mmh. On peut te donner un aspect général. Moi, ce que je suis en train de dire aux gens, c'est vraiment d'y rentrer. Peu importe tes degrés ou tes diplômes que tu as accomplis dans le monde séculaire, c'est important. Mais il faut rentrer dans ce domaine précis. Je veux apprendre un peu. Qu'est-ce que Dieu pense des finances? Qu'est-ce que Dieu attend de moi quand il me confie quelque chose, à comment est-ce que je dois gérer même ce que j'ai pour être un bon gérant. Donc, nous devons amener le peuple de Dieu à savoir qu'apprendre sur les finances, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est une bonne chose. Parce que comment est-ce que Dieu peut nous confier les vraies richesses lorsque nous ne sommes pas fidèles avec l'argent.
Donc le premier conseil, c'est l'éducation pour pouvoir combler l'ignorance qui ne se chasse pas dans le nom de Jésus. Et la deuxième chose, c'est le principe des 10%. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Alors le but, je vous le dis, hein, c'est pas de faire un débat, d'accord? Nous ne faisons pas de débat. Stop au débat.
Vraiment, merci Annabelle d'avoir dit, ce n'est pas un débat. À 10%, quand tu es chrétien, on va appeler ça la dîme. Mm-hmm. Si tu n'es pas chrétien, on dit, bon, charité, à donner 10%. Je sais qu'il y a différentes perspectives sur ça. Ma perspective, elle est très simple. J'enseigne ça à mes enfants depuis qu'ils ont l'âge de 6 ans. C'est un principe. Donner la dîme, c'est dire au Seigneur, je reconnais que c'est toi qui m'as donné ce travail. Mm-hmm. Je reconnais que c'est toi ma vraie source. Mm-hmm. Ce n'est pas ma capacité. Parce que ce boulot aurait pu appartenir à quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Je reconnais que ce n'est pas à cause de mon diplôme. Mais juste permets-moi une minute. Lorsque tu regardes la Bible et qu'on fait une étude, la Bible n'est pas juste un livre aléatoire. L'homélétique, l'herméneutique, ça c'est des sciences qui sont précises. Mm-hmm. C'est des curriculums précis, ce n'est pas aléatoire. Quand vous voyez comment est-ce que Dieu fonctionne avec l'homme, depuis la création jusqu'à le livre d'Apocalypse, c'est surtout et toujours sur la base du sacerdoce. Donc il y a toujours un représentant qu'on appellerait ici un prêtre et un système en place qui est introduit par Dieu lui-même. Dans le temps de Moïse, il y a un tabernacle, il y a 3 parties. Voilà comment vous devez offrir les offrandes, ainsi de suite. Aaron va être mon représentant, l'intermédiaire entre le peuple et Dieu. Ça va ainsi de suite. Même offrir une prière à Dieu, c'est sur la base d'un sacerdoce. Offrir une offrande, c'est sur la base d'un sacerdoce. Louer l'Éternel, c'est sur la base d'un sacerdoce. Si le sacerdoce n'existe pas, l'homme ne peut pas rentrer en communication avec la divinité. Ça, c'est un principe biblique clair. Et depuis le temps d'Abel et Caïn, il y a toujours un ordre sacerdotal implanté, établi, et des principes qu'on doit suivre, sinon ça annule notre culte à l'Éternel. Mm-hmm. Quand ça arrive à la dîme, on voit que l'or sacerdotal est sur la tête d'un prêtre qu'on appelle Melchizedek. Aujourd'hui, si nous prions à Jésus-Christ, qui est le sacerdoce suprême, il est l'intercesseur, c'est sur cet ordre de Melchizedek que Jésus-Christ opère. Donc, tant que le sacerdoce est maintenu, les principes connectés au sacerdoce ne peuvent pas disparaître. Donc, le sacerdoce des Lévites, il a disparu. Donc, tout ce qui avait à voir avec Lévites, il n'est plus. Le sacerdoce aaronique de Aaron, il a disparu. Tous les principes et demandes de culte associés à cet ordre disparaissent avec le sacerdoce. Celui de Melchizedek, la Bible dit qu'il est éternel. Et c'est selon cet ordre que Jésus fonctionne. La dîme est connectée à cet ordre. Donc, on ne peut pas jeter la dîme tant que l'ordre est encore actif. Simple. Donc, 10%, vraiment, je le recommande comme un conseil pour la bonne gestion financière. Si tu es chrétien, si tu n'es pas chrétien, peut-être que tu donnais à des charités, ainsi de suite, mais nous voulons que tu reçoives Jésus-Christ pour être ton Seigneur. Alléluia. Donc ça, ce serait le deuxième point. Mm-hmm. C'est
et
la dîme.
Le fait de pouvoir donner sa dîme, c'est, comme vous l'avez dit, c'est un acte de foi et mm-hmm. de confiance, de dire, mais Seigneur, je ne vais pas tout garder parce que c'est toi qui m'as tout donné et puis il y a une partie que je te redonne et puis je veux le faire de façon systématique, oui. Peu importe les saisons de ma vie dans lesquelles je me trouve. Et Michael Lebois avait dit, concernant la dîme, il avait dit, mais en fait, c'est pas une obligation, dans le sens, Dieu ne nous force à rien dans la vie. Oui. Mais il dit, c'est pas une obligation, mais c'est un privilège. Mm-hmm. Et je me dis, bah, encore une fois, on a parlé du cœur hier, c'est quelque chose qui vient du cœur. J'ai envie mm-hmm. d'offrir quelque chose à Dieu, j'ai envie de donner quelque chose à Dieu, et que ce soit dans tous les domaines, je veux lui offrir ma louange, mon adoration, je veux lui offrir ma vie, m'abandonner, mais je veux aussi lui offrir mes finances. Mm-hmm. Et du coup, il y a une base qui a été établie. Et ce n'est pas une base qui est rigide, qui est les fermes, parce qu'on peut donner plus aussi.
Bien sûr.
Peut avoir cette liberté, mais un cœur qui ne veut rien donner à Dieu devrait nous inquiéter, en fait, de dire oui, mais là, la dîme, c'est pas pour cette alliance. Mais c'est pas la vraie question, en fait. La question, c'est pourquoi est-ce que mon cœur ne veut pas donner?
Exactement.
Pourquoi est-ce que mon cœur s'oppose à cette forme d'abandon entre les mains de Dieu?
Moi, c'est ce que je dis aussi dans le même sens que toi, c'est que c'est pas ça la vraie question. On peut nous tous s'asseoir dans tous les domaines et poser 10 000 questions pour ne pas faire quelque chose, en fait. Mais l'idée, c'est vraiment de dire, par rapport à Dieu, qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui compte? Si, sincèrement, tu as donné ta vie à Dieu au point que toute ta vie est à lui, mais aussi tes finances sont à lui.
Bien
ça
sûr.
Veut dire que s'il faut donner, tu es toujours... En fait, il faut être... on a l'entrain à donner quand on aime Dieu et à tout donner, en fait. Et dès l'instant où l'argent commence à devenir un sujet de débat, dès que le débat est trop long, moi, je dis souvent que ça veut dire que, quelque part, il y a quelque chose à régler qui n'est pas forcément dans ce débat, mais
Bien
qui
sûr.
Est effectivement au niveau du cœur.
Et on va aller à un autre conseil.
Oui.
L'épargne.
Conseil numéro 3.
Ouais.
L'épargne, je recommande 20%. Je ne suis pas un expert financier par expérience, basé sur le mandat de Joseph en Égypte, qui ont épargné un cinquième. Donc, j'aime vraiment ça. On n'épargne pas pour épargner, on épargne pour des opportunités d'investissement ou bien un projet donné. Il doit avoir un objectif toujours connecté à notre épargne. Donc, 20%, c'est vraiment ma recommandation.
On peut épargner pour un projet, mais on peut commencer à épargner même si on n'a pas encore l'idée du projet. Si on
c'est
se
bien.
Dit, à un moment donné, il va...
Bien sûr.
Je suis sûre que quelqu'un d'autre s'est posé la question avec moi aujourd'hui. Donc, ma sœur Alage...
Il faut commencer à épargner maintenant.
OK.
Sans regarder combien d'argent on reçoit. Parce que souvent, on est bloqué quand ça arrive à l'épargne. Il y a beaucoup de courants où on dirait, par exemple, paie d'abord toutes les dettes, puis après, tu commences à épargner. Moi, personnellement, je recommande que tu payes les dettes, mais en même temps, épargne. Il y a des statistiques qui sont sorties. La plupart des problèmes de cœur, arrêt cardiaque, c'est les lundis.
Oh.
Ça se passe les lundis généralement. Pourquoi?
Parce que
on a passé lundi.
On a aujourd'hui. Parce que lundi, les gens vont faire un travail qu'ils haïssent.
Oh.
Mais c'est pas ça qui fait qu'ils ont le problème de cœur.
Ok, d'accord.
C'est qu'ils ont été payés vendredi. Et il n'y a plus d'argent dans le compte.
Oh,
c'est ça le problème. Donc, moi, je me suis dit, si quelqu'un peut regarder un peu dans son compte lundi, même s'il va faire un job qu'il n'aime pas, c'est une bonne motivation de voir quand même quelques sous dans son compte.
Je ne ferai pas un arrêt cardiaque. Donc, on épargne en vue 20% en vue d'un investissement. Donc, un investissement,
ou un projet.
Un projet,
ouais.
Quelque chose qui éventuellement pourrait rapporter d'autres finances.
Bien sûr.
Et tu sais ce que moi, on m'avait dit? On m'avait dit que si tu n'épargnes pas, tu ne seras pas épargné. Ça m'a suffi pour épargner.
Un autre niveau, ça.
Mais ça, quand on dit pour un projet, ça peut être changer de voiture, c'est quelque chose comme ça ou c'est pas...
Bah, tu sais, des fois, quand ça arrive aux voitures ou d'autres choses, les gens pensent « Oh, ben ça, c'est des dépenses inutiles. » Mais la réalité est qu'une voiture peut te permettre d'avoir de l'argent, d'aller au travail, ou même utiliser ta voiture pour produire quelque chose. Donc, ça dépend vraiment des individus. Ben, ça peut être aussi épargné parce que tu vas avoir une mise de fonds pour acheter une maison. Ou bien peut-être aller avec la famille en vacances.
Ça, c'est pas forcément pour un business ou
non,
quelque chose.
Oui. Non, ça peut être pour un business ou pas. Mais au moins...
Allez, Aurélie a basculé du côté du
côté des experts.
Oui. Okay.
Donc, c'est 20%, c'est important. Parce que ça te permet, ça te motive à quelque part de continuer à payer un peu tes dettes, mais en même temps voir qu'au moins, il y a quelque chose qui est là après que tu aies travaillé si fort. Parce que on paye Dieu et on se paye soi-même. Je parlais à un ami, il m'a dit, ah ben tu sais, ah, c'est pas facile parce que j'ai tellement de dépenses. Alors à cause de mes bills, de mes dépenses et ainsi de suite, je dois d'abord prendre soin de ça. Là, je lui ai dit, peut-être que quelqu'un me regarde tout de suite et il est en train de payer la même question. Parce que j'ai tellement de dépenses.
Oui.
Ben, tu sais, transforme cette épargne comme une dépense.
Mm-hmm.
Parce qu'aujourd'hui, si une dépense supplémentaire s'ajoute à nos vies, on voit comment est-ce qu'on bosse, on court de gauche à droite, on ferait de tout ce qui est possible pour pouvoir prendre soin de ses dépenses. Donc,
mm-hmm.
considère ton épargne comme une dépense.
Et il y a aussi une deuxième forme d'épargne, donc ça c'est le quatrième conseil, c'est l'épargne pour les imprévus ou les temps difficiles, c'est ça?
Oui. L'épargne pour les temps difficiles, je conseillerais 10%.
Mm-hmm.
Là, ça nous amène maintenant à 40% au total, 10% pour Dieu, 20% pour toi,
ouais.
pour l'épargne, et 10% pour les temps difficiles, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain.
Mm-hmm.
Là, ça nous reste 60%.
C'est ça, 60%, qu'est-ce qu'on
ça,
en fait
les dépenses, du coup.
Qu'est-ce qu'on oui. fait des 60%?
On doit vivre sur les 60%.
Donc ça, c'est le cinquième conseil.
Oui, bien sûr, parce qu'à la fin de la journée, si 60% est trop peu, qui est généralement trop peu pour les gens,
mm-hmm.
il faut peut-être... Il y a deux façons d'accroître ton argent. Soit tu augmentes, tu trouves un autre boulot,
okay.
soit tu as une augmentation de boulot, ou bien tu baisses tes dépenses.
Mmh.
Malheureusement, la plupart des gens vivent au-delà de leurs moyens.
Mmh.
Comme je l'avais dit, il faut vivre basé sur nos moyens, pas nos rêves.
Mmh.
Oh. Les gens vivent basé sur leurs rêves. Alors, avant que tu ne réalises, les rêves sont grands comme ça, puis le revenu, il est grand comme ça.
Mmh.
Donc, si 60% c'est trop peu, il faut s'asseoir, prendre un inventaire.
Mmh.
Et voir quelles sont les dépenses qui peuvent être éliminées
mm-hmm.
ou baissées complètement.
Mm-hmm.
Ou bien peut-être réduire où nous vivons. Ou peut-être avoir une voiture moins chère. Ou peut-être se contenter de son studio ou bien d'une seule chambre pour le moment. Ce qui est intéressant avec la gestion financière, c'est que ta condition présente n'est pas finale.
Mm-hmm.
Les sacrifices que tu fais à rester dans un studio et vivre avec les moyens que tu as, ça te permettra d'améliorer maintenant, d'aller sur deux chambres et acheter une maison, une meilleure voiture, ainsi de suite. Mm-hmm. Donc, c'est un sacrifice qui est payant pour le futur. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas final.
Et aussi, on est dans une société de consommation mmh. extrême où il y a des choses qui sont des dépenses qui sont devenues normales, quasiment, voire vitales, comme s'arrêter, prendre un café, prendre un repas à emporter et tout ça. Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, dans mon jeune temps, on ne faisait jamais ça. C'était, déjà, ça n'existait pas d'aller chercher un café quelque part, mais c'était des dépenses qui n'étaient pas vitales et on le savait, en fait. Mais aujourd'hui, c'est tellement entrer dans les mœurs, que je pense particulièrement aux jeunes.
Oui.
Mais c'est hyper normal pour eux de dépenser leur argent comme ça. Mais en fait, franchement, 6 dollars plus 6 dollars des cafés tous les jours, mais ça fait un vrai budget. Ça semble
oui.
rien, mais c'est des vraies dépenses qui font que dans le 60%, on se dit, mais non, mais j'ai pas assez. Mais il y a plein de choses qui sont superflues, mais que la société aujourd'hui nous a vendues comme étant normales et essentielles. Ouais, mmh. essentielles. C'est ça.
Oui, et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui n'aiment pas les calculs aussi. Et
moi,
quand j'écoute le pasteur Elage parler, j'ai l'impression que pour faire cet exercice, ça prend vraiment de s'asseoir et de voir, en fait, et étudier soit la carte de crédit pour ceux qui utilisent des cartes, ou même réfléchir à ce qui sort vraiment de notre poche. Et je crois que c'est vraiment un exercice à faire avec sérieux. Et ça va. Et j'ai l'impression que ça touche tellement de domaines. Là, on parle des finances. J'ai l'impression que ça va toucher l'amitié.
Oui.
Parce que certaines dépenses, ça vient des restaurants.
Oui.
Ça vient de toutes sortes de sorties.
Oui.
Tu vois, donc là, c'est que ça touche vraiment beaucoup de petits aspects de la vie en parallèle, mais c'est aussi de faire preuve de sagesse. Donc, s'il y avait 3 sorties, peut-être on peut limiter à 1. Si on allait dans les restaurants les plus huppés de la ville, je ne sais pas, on peut aller dans un restaurant peut-être avec moins d'étoiles pour pouvoir bénéficier mm-hmm. de certaines choses. Donc, c'est cette réflexion qui va tourner autour qu'il faut aussi considérer, parce que certaines personnes peuvent juste annuler, comme « Ok, je ne sors plus avec mes amis », mais tu as aussi aussi besoin. Tu as aussi besoin de ça pour vivre. C'est maintenant de voir, OK, est-ce qu'au lieu d'aller à tel endroit, je peux négocier autre chose avec mes amis pour garder le temps. Et tout ça, ça prend de s'asseoir et de réfléchir. Donc, c'est important de considérer ça aussi.
Ouais. Merci Aurélie. Parce qu'on est sur Parole de femmes, je me suis dit, bah, il faut que je dise quand même quelque chose aux femmes. Plusieurs femmes, leur mise de fonds pour leur condo se trouve dans leur garde-robe.
Oh. Wow.
Pas toutes, plusieurs. J'étais choqué il y a 2 ans. Je suis rentré chez moi et puis je commençais à regarder ce que je n'ai pas besoin. Puis je commençais à vendre ça. Et c'est incroyable les choses qu'on a chez nous dont on n'a pas besoin. Inclus dans les garde-robes. Le nombre de chaussures. Et bah, je ne veux pas exagérer pour que les femmes arrêtent d'être belles. Ce n'est pas ça le point, mais ici, c'est parole de femme. Si on veut augmenter notre revenu sans avoir un autre boulot, il faut baisser les dépenses et vendre ce qu'on n'a pas besoin. Il y a des choses qu'on n'utilise pas. On utilise une fois par 2 ans ou par 1. Qu'est-ce que ça fait dans la maison? C'est de l'argent qui est là, mais en matériel, qu'on n'utilise pas. Et puis on dit, oh ben, j'ai pas d'argent. Si tu peux rentrer chez toi et prendre un inventaire des choses qui sont là, que tu n'utilises pas, je pense qu'on peut faire une différence là. Numéro 2, lorsque tu veux faire un changement radical, c'est important de faire asseoir ta famille et les amis proches. Pour leur expliquer ce que tu es en train d'entreprendre à cette étape de ta vie. C'est un projet. Et voilà où je suis. À l'étape de ma vie, je vais faire un changement radical parce que je veux vivre un peu plus sécurisé. J'ai un projet, ainsi de suite. Donc, les sorties qu'on avait, j'aimerais qu'on les fasse, mais de telle façon, on ne les rejette pas. Et surtout pour la famille. Pour les hommes, rapidement, je conseillerais, il faut que la femme, et aussi pour les femmes, qu'ils sachent combien d'argent vous avez. Parce que des fois, il arrive que, parole de femme, qu'une femme peut penser que son mari a plus d'argent qu'il n'a.
Par
juste en voyant les choses, donc tu peux commencer à dépenser, ne sachant pas quelle est la vraie réalité. Ok, je vais m'arrêter là, les femmes. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui,
c'est important donc de baisser les dépenses, et en baissant les dépenses, on vit basé sur nos moyens, pas sur nos rêves. Et avant que tu ne réalises, tu commences à t'améliorer, tu commences à comprendre l'argent. Et avec ça, Dieu commence à nous faire confiance avec un peu plus. Et on améliore à partir de là.
Et en vivant selon nos moyens et en suivant ces conseils de bonne gestion financière, bah c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir réaliser nos rêves.
Exactement.
Et c'est comme ça qu'on va pouvoir se dire, OK, ces vacances dont on rêve, dont on parle depuis si longtemps, on a un plan en fait pour que ça arrive et que ce soit pas, que ça nous échappe pas parce qu'il y a eu une sortie, il y a eu ci, il y a eu ça. Puis au final, quelquefois, on ne sait même pas où l'argent est allé. C'est un peu comme le temps. Tu ne sais pas où c'est passé, mais en tout cas, tu sais que t'en as plus. Et on ne veut pas vivre comme ça. Donc Dieu nous a donné une capacité à pouvoir gérer l'argent qu'il nous confie, et on peut augmenter en compétences en nous éduquant, et aussi en prenant de bonnes habitudes et en étant renouvelé dans notre intelligence, afin de marcher avec foi et aussi de marcher avec sagesse, être capable de renoncer à des choses qui ne sont pas indispensables, à des dépenses qui sont charnelles. Une façon de vie, quelquefois, on a un style de vie qui est charnel parce que c'est basé sur les apparences, c'est basé sur l'égoïsme, c'est basé sur des désirs comme ça, immédiats, on veut y répondre tout de suite. Et le Seigneur peut aussi nous aider dans ce domaine-là et puis nous sanctifier pour qu'on puisse avoir une meilleure gestion financière. Et puis demain, on va continuer, puis on va voir comment sortir des dettes, comment pouvoir être renouvelé, pas seulement dans notre intelligence, mais aussi être renouvelé dans nos finances, parce que c'est possible de prendre un nouveau départ si on a pris de mauvaises décisions, si on a fait de mauvais choix, ou s'il y a eu des imprévus. C'est possible, Dieu rachète tout, Dieu rachète aussi nos situations financières. Alors on se retrouve demain dans Parole de Femmes.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes sur emcitv.com.